Voilà un bon morceau pour introduire cette émission en compagnie de Stéphane Thomas, musicien. Nous allons faire sa connaissance plus en détail pendant un bon moment sur Fréquence Mistral ce matin. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors on vient d'entendre, pour amorcer cette émission, un morceau qui s'appelle...
First Song, oui, qui est un morceau de Charlie Haddon et que j'ai enregistré avec la contrebassiste Christiane Hudever. Voilà. Disque qu'on a enregistré assez récemment.
Alors, on va faire le tour d'horizon de votre univers musical. La musique, c'est quelque chose que vous pratiquez depuis très longtemps. Et on va parler de tous ces instruments que vous maîtrisez et de votre passion pour la flûte indienne en général. Voilà.
Oui, la flûte indienne.
Alors, comment a démarré votre... D'abord, quels instruments vous jouez et puis vos débuts?
Alors, mes débuts commencent enfant, on va dire. On va repartir du tout début. Donc moi, j'ai commencé en fait en autodidacte et puis en m'amusant en fait avec un banjo mandoline. Voilà, c'était l'instrument de mon grand-père, le banjo mandoline. C'était un instrument très populaire dans les années 30. On voit beaucoup de photos d'ouvriers pendant les grèves de 36 avec cet instrument. Donc mon grand-père en jouait et puis il était bricoleur et il s'amusa à fabriquer une mandoline avec du contreplaqué. Et voilà, une mandoline qui fonctionnait. Alors il me l'a offerte. Et il avait marqué avec des petits crayons de couleur où je trouvais le do, le ré, le mi, en mettant des couleurs différentes. Et puis il dit, voilà, tu joues do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, et après tu peux tout jouer. Voilà, et parce qu'il jouait d'oreille, et pour lui, ben, une fois qu'on savait où se trouvaient les notes, il suffisait de chercher. Alors j'ai cherché, et puis en fin de compte... Je ne veux pas dire que je sois devenu un bon joueur de mandoline, mais j'ai développé mon oreille comme ça. Et puis, chez moi, on écoutait un petit peu de jazz. Mon père aimait quand même Django, Sidney Bechet, Louis Armstrong. Mais voilà, la musique n'était pas non plus si présente que ça dans la maison. Mais voilà, j'avais quand même entendu un peu de jazz. Et puis, à 16 ans, 16-17 ans, je découvre John Coltrane. J'entends surtout un morceau qui s'appelle My Favorite Things. Je le cite parce que j'ai découvert plus tard que beaucoup de mes collègues jazzman, en fait, ont eu envie de faire ce métier après avoir entendu ce morceau. C'est vraiment un morceau qui provoque un choc chez beaucoup de gens. Quasiment mystique. Et c'est vrai que moi, à l'époque, je ne vais pas raconter tous les détails de ma vie, mais disons qu'on ne peut pas dire que ça allait très fort. Et quand j'ai entendu ça, vraiment, à partir de là, je me suis dit, la vie mérite d'être vécue. Voilà. Il y avait une énergie vraiment très, très positive dans cette musique. Et j'ai eu envie de faire du jazz, j'ai commencé à en écouter, je suis allé à la médiathèque. À l'époque, j'habitais en Normandie, à Évreux, on n'appelait pas ça des médiathèques, il y avait un lieu où on pouvait louer des disques à côté de la bibliothèque municipale. Et puis, et là, j'ai commencé à piller les disques et les enregistrer. On les enregistrait sur des cassettes à l'époque, hein, donc je faisais des cassettes et voilà, j'ai commencé à me faire ma culture comme ça, ma culture jazz. Et à 17 ans, avec une paye de manutentionnaire, de travail d'été, je me suis acheté une flûte. J'ai eu envie de faire de la flûte, je ne saurais pas dire pourquoi. Mais le son m'intéressait, j'avais entendu des flûtistes. Il y avait Eric Dolphy qui me passionnait dans le jazz. Et puis, voilà. Et donc, j'ai acheté une flûte et puis...
Alors, c'était quelle flûte
Flûte traversière, flûte classique. Traversière, voilà. Mais pour faire du jazz, il y a quand même des... C'est vrai que c'est moins connu, mais il y a quand même des flûtistes dans
des
le jazz.
Flûtistes, oui.
Voilà. Ouais. Et puis alors, j'avais la fille d'une amie, et plus précisément, la fille de ma prof de musique, de ma prof de musique de collège. Et qui, elle, faisait de la flûte. Et alors, elle m'avait dessiné sur un papier toutes les positions, tous les doigtés. Donc voilà, j'ai retrouvé la même méthode, j'ai repris la même méthode que mon grand-père. Hein. On fait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do et on peut tout jouer.
Ah oui.
Ce qui n'est pas tout à fait vrai, il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, je me suis lancé comme ça. C'est-à-dire que j'avais des disques hein, à la maison, je les faisais tourner et je jouais dessus en cherchant les notes. Et puis il y a des notes qui marchent, des notes qui ne marchent pas. On essaie de retrouver les mélodies, on développe son oreille. Et puis au bout d'un moment, je comprends aussi qu'en improvisant, qu'il y a des paquets de notes qui marchent, des paquets de notes qui ne marchent pas. Mmh. Et puis je finis par comprendre des petites choses, les gammes, les accords. Et enfin, un grand frère d'un copain qui lui était assez avancé, m'a expliqué 2-3 trucs et puis c'était parti. Voilà, à côté de ça, en même temps, j'avais aussi des copains qui jouaient déjà un peu de jazz, mais du jazz New Orleans, du jazz traditionnel. Alors là, du coup, ayant fait du banjo mandoline, j'y tiens, le banjo, c'est la même famille. Donc je me suis mis au banjo jazz, au banjo 4 cordes, qui est différent du banjo qui est plus connu, le banjo country à 5 cordes. Mais je me suis mis donc à faire du banjo jazz pour faire la musique donc, de la Nouvelle-Orléans. Et là, le samedi soir, on allait buffer dans un pub avec un copain pianiste qui était embauché là. Et donc j'ai commencé à jouer en public et puis à improviser, à jouer assez régulièrement. Et donc j'ai continué de développer ma culture, mon oreille, ma capacité à improviser. Et puis à 20 ans, je suis rentré dans une école de jazz à Paris qui s'appelait l'IACP, qui était une école un peu originale, tenue par un Américain qui venait du free jazz. Les gens qui tenaient cette école venaient plutôt de ce qu'on appelle aujourd'hui la musique improvisée, c'est-à-dire une musique assez libre, c'est-à-dire qui se revendiquait du jazz, mais en faisant des musiques originales. Enfin, ils voulaient un peu se démarquer des gens qui faisaient du jazz en s'appuyant sur les standards, voilà. C'est une bonne, une mauvaise chose, j'aurais pas à dire. En tout cas, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis à côté de ça, je rencontre aussi un musicien donc proche d'où j'habitais, qui s'appelait Jean-Jacques Roulman, et un saxophoniste qui était connu, que je connaissais. D'ailleurs, j'avais des disques, j'avais quelques-uns de ses disques, avec qui j'ai pris des cours. Alors là, on a fait du travail de fond sur les standards et tout ça. Et puis voilà, c'est parti. Puis j'ai commencé à vivre ma vie de musicien en jouant dans les restos. Voilà. Et c'est bien plus tard, à 30 ans, que j'ai passé un prix de conservatoire. Voilà,
oui,
donc
ça peut se faire, ça.
Oui, ça peut se faire. C'est possible. Et donc voilà, un parcours un peu à l'envers, mais... Voilà, pour finir, pour le parcours, on va dire, de l'apprentissage, j'ai repris des études il y a une quinzaine d'années. J'ai fait un master de musique et qui m'a permis de faire un mémoire, entre autres, j'ai fait deux mémoires, mais le mémoire de master 2 que j'ai fait sur l'enseignement de la musique indienne. Mais je pense qu'on reviendra sur l'Inde un peu plus tard.
Eh bien voilà qui est fort intéressant. est-ce qu'on écoute déjà un morceau que vous nous avez...
On peut écouter Wake Up, par exemple. C'est un morceau que j'ai joué. Alors ça, c'est avec une fanfare, ce qu'on appelle une fanfare funk, dans laquelle je jouais du banjo. Mais alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la Nouvelle-Orléans, les musiciens continuent de jouer avec les mêmes instruments que... Les mêmes instruments qu'on pratiquait dans le temps pour faire du jazz New Orleans, sauf qu'aujourd'hui, tout en continuant de perpétuer la tradition, en jouant toujours ces vieux morceaux, Oh, When the Saints, St. Louis Blues, tous ces vieux standards, ils ont aussi intégré la musique d'aujourd'hui, c'est-à-dire le funk, le hip-hop, voilà. Et puis, donc, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, en France, on appelle ça les fanfares funk, et puis qui se sont aussi inspirés de musique du monde, parfois. Voilà, donc là, c'est un morceau, c'est un groupe qui s'appelle Lulu and the Comets All Stars, donc un groupe dans lequel j'ai joué un peu plus de 10 ans. Et c'est donc dans un disque qui s'appelle Secambal's Cody. Et donc on s'inspirait de musique du monde, du funk, de plein de choses. Alors là, c'est un morceau qui s'appelle Wake Up, avec une inspiration un peu africaine. Voilà. Et je joue du banjo et je fais un saut de flûte aussi dessus. Voilà.
Alors on l'écoute, Stéphane Thomas. Oups. Thank you. Stéphane Thomas avec nous en direct sur Fréquence Mistral, donc un morceau dont nous venons de parler, ça s'appelle Wake Up.
Voilà, Wake Up avec, je sais pas comment on est sur ce disque, on doit être, 12 ou quelque chose comme ça, 12 musiciens avec un sousaphone, c'est Simon Balaiguier d'ailleurs qui a joué quelque temps sur Marseille. Il y a deux trompettistes qui font de belles carrières, il y a Eric Lachaud qui est aujourd'hui un bon trompettiste de salsa qui est installé sur Avignon, mais qui joue souvent avec Yuri Buenaventura quand il vient en France. Et il y a aussi Alban Saron. Ah voilà, Alban Saron, c'est aussi le deuxième trompettiste de la Fanfare. Il a créé un groupe qui s'appelle Zivelli, qui est un groupe vraiment formidable. Je vous invite vraiment à découvrir ce groupe. C'est de la musique des Balkans. C'est pour moi un des meilleurs groupes de fanfare des Balkans qui existe en France. C'est vraiment super, sont super des chouettes artistes, très attachants.
On va écouter d'autres morceaux. Vous avez choisi, alors comment on prononce, Yokana ?
Yokana ou Yotchana, oui.
Yotchana.
C'est une musique de musique carnatique. Alors,
carnatique, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Alors la musique carnatique... dans l'Inde, donc il y a plein de sortes de musique, bien sûr, c'est très grand l'Inde, c'est un peu comme l'Europe. Mais il y a, comme chez nous, il y a la musique folklorique et puis la musique savante. Et la musique savante en Inde, elle se divise en deux grands courants, on va dire. Le courant du nord qui s'appelle la musique hindoustani. Donc c'est la musique qu'on connaît le mieux souvent en France, hein, avec des flûtistes comme Hari Prasad Chaurasia, un percussionniste Zakir Hussain, Ravi Shankar est peut-être plus connu encore.
Oui.
Ravi Shankar. Et puis la musique du sud, qu'on appelle la musique carnatique. Voilà. C'est un peu divisé en Inde. L'Inde, d'ailleurs culturellement, ça correspond aussi à une division géographique au niveau des racines linguistiques. Hein, les langues pour faire court, disons que les langues du nord sont de racines sanscrites, alors que les langues du sud sont de racines dravidiennes ou du tamoul ancien. Voilà. Et en fait, dans le nord, la musique s'est enrichie par diverses invasions, diverses influences des musiques qui se passent à côté, surtout la musique persane. Et par toute cette mixité, à travers les siècles, la musique s'est enrichie et a développé sa propre complexité. Alors que dans le sud, ils ont résisté aux invasions, surtout aux invasions musulmanes. Ils sont un peu repliés sur eux-mêmes et ils ont créé un style spécifique qu'on appelle donc la musique carnatique. Carnatique, ça vient de Karnataka, qui est une région du sud de l'Inde, et ce sont les Anglais qui appelaient le sud de l'Inde le Carnatique, la région du Carnatique. Voilà. Mmh. Donc, on appelle la musique classique du sud de l'Inde la musique carnatique. Voilà. Et du coup, les instruments sont un peu différents. Par exemple, pour la flûte, la musique du nord, la flûte hindoustanie, c'est une grande flûte basse à 6 trous. Et la flûte carnatique, c'est une flûte à 8 trous qui est plus petite. Voilà. Et c'est cet instrument que j'ai découvert là-bas. Voilà. Donc là, Yochana, c'est donc interprété par Ramani, qui a été mon maître de flûte en Inde. Et voilà, et qui joue, qui interprète donc ce morceau.
Vous êtes avec Stéphane Thomas, donc grand musicien, flûtiste, entre autres, et donc c'était Yochana, c'est comme ça qu'on
dit. Oui, on peut dire ça.
Voilà, avec Ramani.
Ramani, voilà, un grand maître de la musique carnatique, donc de la musique de l'Inde du Sud, flûtiste.
Alors je voulais revenir sur ce goût. Déjà, vous êtes passé du jazz à la...
Oui, ça se fait en fait, ça peut se faire assez facilement. En fait, bon, moi je découvre le jazz, c'était dans les années 80 en fin de compte. Mm-hmm. Mais et les stars du jazz de l'époque, ils ont connu les années 70, les années 60, et à l'époque, ils ont connu le mouvement hippie aussi. Et avec tout cet intérêt pour la spiritualité indienne et du coup la musique aussi indienne.
Donc vous avez fait votre premier voyage en Inde, c'était pas forcément pour la musique au départ.
Disons que mon intérêt pour l'Inde d'abord commence par la musique, c'est-à-dire que il y a des tas de jazzman qui s'intéressent à l'Inde et du coup on entend l'influence dans leur musique, John Coltrane par exemple, voilà, il a rencontré Ravi Shankar. Et puis il y a plein de musiciens comme ça, John McLaughlin par exemple, qui est quand même une star du jazz et qui a créé le groupe Shakti avec des musiciens indiens. Donc et puis beaucoup dans les interviews parler de la musique indienne, la musique modale, donc une musique où il n'y a pas d'accord, alors que le jazz justement c'est plein d'accords, c'est la science des accords, c'est même des fois on se focalise un peu trop là-dessus quand on travaille le jazz, on oublie qu'il y a d'autres choses à travailler, mais mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très important, cette histoire de relation accord pour accord. Et du coup, la musique, ce qu'on appelle modale, elle a intéressé aussi beaucoup de jazzman pour essayer de trouver d'autres terrains, quoi, de jeu. Et puis, ce sont avec la période hippie et puis l'intérêt pour l'Inde, eh ben, beaucoup sont allés en Inde ou se sont intéressés à cette musique. Donc du coup, moi, je découvrais cette musique aussi et puis je me suis mis à en écouter, tout simplement. Sauf que j'ai voulu aussi essayer d'en jouer et puis j'ai essayé de dire des choses. Et c'était vraiment... Tout ce que je pouvais dire, c'était compliqué, c'était... Voilà, on en faisait toute une histoire, et moi, au fond de moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me disais, c'est pas possible cette approche compliquée de la musique indienne. Bien sûr, c'est une musique savante, on est bien d'accord, il faut des années pour l'étudier, mais comment font les enfants, là-bas? Comment font les enfants pour apprendre la musique indienne? Et j'ai eu une chance incroyable, c'est-à-dire que je suis allé en Inde, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant, d'abord en touriste et puis ensuite en rentrant. Donc j'avais fait un petit parcours touristique dans l'Inde du Sud, comme tout le monde peut le faire, en visitant les grands temples qui sont magnifiques. Il y a plein de choses superbes à aller voir là-bas. Et puis j'avais vraiment envie d'y retourner. Et moi je suis flûtiste, je donne des concerts, je donne aussi des cours. Donc... arrive la rentrée. Donc j'étais allé en Inde durant un été, et puis arrive la rentrée, je fais mes inscriptions d'élèves, pendant une journée des inscriptions, hein, les journées portes ouvertes d'un centre culturel. Donc moi j'étais là à ma table, je faisais mes inscriptions, et à la table d'à côté, il y avait une association qui était là, qui était une association qui aidait une école dans un village en Inde. Et puis ils avaient affiché une carte avec. Ils faisaient aussi un petit parcours touristique en allant là-bas, quand ils allaient là-bas. Et je vois leur parcours, ils avaient fait exactement le même parcours que moi. Alors je vais leur parler, on discute. Et puis ils me disent tu sais, l'année prochaine, on arrive au bout d'un projet, on aura construit deux immeubles dans une petite école, enfin dans un village. Et il y a ces deux beaux bâtiments, il va y avoir une belle inauguration, une grosse fête, les Indiens vont faire quelque chose de magnifique, nous on voudrait apporter quelque chose, mais on ne sait rien faire sur scène, on voudrait emmener des artistes. Est-ce que tu veux venir? Alors bon, évidemment, je dis, oh là là, aller avec des gens en Inde, avec des gens qui connaissent en plus, qui peuvent m'en apprendre, je dis, ça peut être une super occasion. Et du coup, je suis parti avec eux. Et j'ai joué, du coup, là-bas. Je suis parti avec un guitariste. On a joué en duo. C'était vraiment... plein d'aventures extraordinaires. Mais alors, la chose extraordinaire, c'est que dans cette école, qui était donc high school, c'est-à-dire l'équivalent d'un collège, hein, chez nous. Hein, en fait, il y avait une prof de musique. Comme on a chez nous, ils ont aussi des profs de musique, exactement comme chez nous. Et cette prof de musique, il s'est trouvé que c'est évidemment, ils m'ont placé chez elle, on était logés chez les profs, et évidemment, ils m'ont collé chez la prof de musique. Et puis au bout de quelques jours, j'ai demandé à cette prof qui s'appelle Maïtélie. J'ai demandé à Maïtélie, je lui ai posé plein de questions, voilà, tout simplement, un soir, sur la musique indienne. Elle me dit, bon, d'accord, attends, bouge pas, je vais chercher quelque chose. Et puis, elle ouvre un placard, elle sort des paquets de sari. Les sari, vous savez, c'est ces grands tissus qui servent
pour s'habiller.
À s'habiller, oui. Voilà. Mm-hmm. Elle sort plein de vêtements, enfin, elle sort plein de trucs. Et au fond du placard, au fond d'une étagère, elle sort deux gros cahiers, mais vraiment assez très gros. Hein. Je sais pas combien de pages, moi. Enfin, voilà, deux gros cahiers, entièrement écrits de sa main. Et il y avait en fait tout le cursus qu'elle avait fait pour apprendre la musique, c'est-à-dire tous ses exercices, tous les premiers chants et puis tout son répertoire qu'elle avait travaillé. Il se trouve que son père est un maître de musique. Et donc, évidemment, elle a été donc bien placée pour avoir un bon niveau. Et puis après, quand ils ont créé les profs de musique, les postes de profs de musique, il se trouvait qu'elle était à la fin de ses études. Elle s'est dit, bah, je vais faire ça en avant. Et elle a fait partie des premières profs de musique de l'Inde. Et donc, elle ouvre et puis elle me dit, bah voilà, les exercices, voilà ce qu'on va faire. Et alors, je commence à regarder. Elle m'explique, elle m'explique deux, trois choses. Et puis, à la fin de toutes ces explications, je lui dis, ben voilà, il reste encore une semaine ici. Est-ce que tu penses que je pourrais apprendre la première leçon, quoi, au moins faire le premier cours, là, et qui faisait plusieurs pages. Elle me dit, d'accord, OK. Et là, évidemment, je ne me rendais pas compte de ce que j'avais demandé. Hein, évidemment, en bonne occidentale, qui ne se rend pas toujours compte de tout. Et oui, après sa journée à l'école, après avoir fait à manger pour tout le monde, la vaisselle, ranger sa cuisine le soir, tout le monde va se coucher. Et puis moi-même, je m'apprêtais à me coucher. Elle me dit « Attends, tu ne vas pas être couché, on va travailler. » Et là, pendant une heure tous les soirs, on a travaillé. Et du coup, je suis reparti en pleurant, évidemment, avec ce que j'avais reçu. C'était extraordinaire.
En pleurant d'émotion.
D'émotion, bien sûr.
Pas de douleur.
d'émotion de tout ça. C'était très, très fort. Et je me suis dit, je ne peux pas rester avec ça, avec ce cadeau comme ça. Ce n'est pas possible d'avoir reçu ça et puis de rentrer chez moi et de continuer à faire le jazz. Je vais continuer à faire du jazz et à faire de la musique. Enfin, je faisais plein d'autres choses que pas que du jazz d'ailleurs, je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose avec la musique indienne, quoi. Je pouvais pas gâcher ce cadeau. Alors j'ai rencontré un premier professeur qui malheureusement est décédé très vite, qui jouait de la flûte carnatique, donc la flûte de l'Inde du Sud.
Donc là, pour revenir à ses premiers cours avec
Maithili,
oui. C'était sur une flûte...
Non, alors là, c'était au chant, on chantait. Voilà.
Ah, c'était
voilà,
avec...
On chantait, voilà, exactement, oui. C'est-à-dire qu'elle était prof de chant, elle faisait chanter ses élèves. Elle faisait que de chanter, ouais. Elle fait que de chanter, voilà, c'est ça. Oui. Et puis, je suis rentré, puis je me suis dit, bon, je vais continuer la musique, mais étant flûtiste, ce serait bien que j'apprenne la flûte, quoi, de la flûte en bambou, la flûte de l'Inde du Sud. Et donc, à l'époque, j'habitais dans la région parisienne, et puis j'ai rencontré un prof, j'ai rencontré une personne donc, qui avait étudié ça, et qui m'a donné donc, mes premiers cours. Malheureusement, il n'était pas bien en point, il est décédé assez rapidement. Mais j'ai continué d'aller en Inde avec cette association qui aidait donc cette école. Et puis, et en allant là-bas, en fait, il y avait aussi des musiciens indiens qui nous aidaient, qui aidaient cette association. Et j'ai rencontré un grand maître de chant et de danse indienne qui s'appelle Rajamanikam, qui est directeur de 2-3 écoles à Pondichéry. Enfin, je dis 2-3 parce qu'il a eu, à un moment, été directeur de 3 écoles. Maintenant, bon, il s'est recentré sur 2. C'est quelqu'un de très, très important au niveau culturel sur le territoire de Pondichéry. Et donc, c'est devenu un ami. On a joué ensemble. On a fait des choses en Inde. On a fait des choses en France aussi. Il est venu en France. On a fait des concerts. Et puis alors, il a un fils, et quand je l'ai connu, il devait avoir 12-13 ans, un truc comme ça. Et puis, donc une année, je reviens et je lui amène une flûte à bec. Voilà. Alors son fils, donc Rajkumar, il s'appelle. Rajkumar, lui, il avait évidemment une solide formation de musique indienne avec son père, qui tenait des écoles, forcément. Il faisait du violon, il faisait du mridangam. Le mridangam, c'est une percussion, un peu l'équivalent des tablas pour le Sud. Et donc je lui offre une flûte à bec. Voilà, une flûte à bec en disant, tu vois, cet instrument, c'est l'instrument qu'on joue dans les écoles, qu'on jouait de cet instrument. Tout le monde devait passer par la flûte à bec au collège. Alors il prend la flûte, il est super intéressé. Et puis en fin de compte, je reste une semaine chez eux. Et puis toute la semaine, il a pas lâché la flûte, il a joué, voilà. Et puis, au bout d'un moment, il s'est rappelé qu'il y avait une flûte qui traînait chez lui. Il a ressorti une petite flûte traversière. Et puis, il a commencé à en jouer. Voilà, je lui ai donné 2-3 cours pour souffler dedans. Et je reviens l'année d'après. Et là, c'était énorme. Il jouait, c'est incroyable, il arrivait à imiter des grands flûtistes. Il me disait, tu vois, il y a un tel, il joue comme ci, lui, il joue comme ça, il fait la phrase plutôt comme ci. Enfin, il avait travaillé comme un fou et il est devenu flûtiste. Voilà.
Une belle histoire.
Ouais, alors à chaque fois que qu'il me présente là-bas, il dit que je suis son gourou. Parce que gourou, c'est pas péjoratif là-bas. Hein. Mm-hmm. Gourou, ça veut dire maître. Il y a des maîtres de flûte, hein, mm-hmm. un maître de percussion, de sitar. On dit toujours gourou. Ça veut dire. Nous, dans le temps, on appelait les professeurs, on les appelait maîtres. Mm-hmm. Eh bien, eux, c'est pareil. Ils disent gourou. Ça n'a pas du tout le côté péjoratif qu'on peut avoir chez nous. Donc à chaque fois, il dit que je suis son gourou. Bon, on en rigole quand même. Et puis ensuite donc, pour continuer avec Raj Kumar, il a grandi, hein, il a une trentaine d'années aujourd'hui, et il a un studio d'enregistrement. Donc régulièrement, je vais là-bas, on enregistre des choses, et il m'arrive d'emmener des musiciens occidentaux que j'accompagne là-bas, et ça leur permet d'enregistrer sur place et de vivre l'expérience de travailler avec des Indiens. Je dis des Indiens parce qu'il y a Raj Kumar, bien sûr, qui est ingénieur du son, mais je leur fais rencontrer des musiciens indiens et ça permet de faire des rencontres, de vivre des aventures. Et puis aussi, je leur organise un petit séjour touristique là-bas. Donc il y a aussi tout cet aspect. Et puis, parallèlement à ça, après, je vais rencontrer quelqu'un d'incroyable qui s'appelait, malheureusement, parce qu'elle est décédée maintenant il y a 4 ans, qui s'appelait donc Sylvie Le Serre. Et Sylvie Le Serre, j'ai rencontré à Paris. Elle jouait de la musique carnatique. Et elle vivait 6 mois à Paris, 6 mois en Inde, à Chennai, qu'on appelait dans le temps Madras, la grosse ville de l'Inde du Sud. Et les 6 mois qu'elle passait en Inde, en fait, elle est passée auprès de Ramani. Ramani, c'est un grand, grand flûtiste. C'était une grande, grande star, pareil, qui est décédé, lui, peu de temps avant, il y a 5 ans. Une grande, grande star de l'Inde du Sud. Donc, du coup, moi, je prenais des cours avec Sylvie. J'ai pris des cours avec elle pendant une dizaine d'années. Et sur Paris. Et puis, quand j'allais en Inde, j'allais évidemment pour aider l'association, suivre par exemple des travaux, des choses là. Mais j'en profitais aussi pour voir mes amis, à Pondichéry, et aussi Sylvie, donc, qui était à Chennai, et avec qui on allait voir Ramani. Donc Ramani m'a donné des cours comme ça, et puis m'a fait rencontrer plein de gens. J'ai vu des tas de concerts, dès qu'il jouait, il m'emmenait au concert. Des fois, je me retrouvais sur scène à côté de lui, à battre le tala. Le tala, c'est battre la mesure un peu, hein. Il y a des gestes spécifiques. Voilà, plein d'aventures. J'ai vécu plein d'aventures avec tous ces gens-là. Et,
donc là, c'était des cours de flûte.
De flûte carnatique.
Sur une flûte indienne.
Une flûte indienne, voilà, comme la flûte qu'on vient d'entendre avec Ramani. Voilà.
Donc, j'imagine que c'est très différent de la flûte traversière. Est-ce qu'avec la flûte traversière, on peut reproduire des sons de flûte indienne, tout est possible, on entend vraiment, c'est plus la flûte uniquement avec un son, enfin, on peut faire vraiment de multiples sons.
Oui, mais alors c'est une très très bonne question. On peut toujours s'amuser à faire plus ou moins de la musique indienne avec un instrument occidental, mais vraiment, si on veut être puriste, c'est pas possible. Mmh. Mais vraiment pas possible. Parce qu'il y a des types d'ornements, des glissés qu'on peut faire. Enfin, les notes doivent pouvoir glisser de l'une à l'autre. Et ça, on ne peut pas le faire avec des instruments occidentaux. Il y a une image qu'un jour j'ai trouvée. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est à la fin d'un concert, et je jouais de la flûte occidentale, de la flûte classique, mais j'avais fait un peu de musique de flûte en bambou. Et une personne m'a demandé, mais alors qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Et puis il y a une image qui m'est venue. Je lui dis, tu vois, quand j'improvise avec la flûte classique, j'ai l'impression d'empiler des petits cubes. Et puis je construis des petites maisons, des châteaux. Et quand je fais de la flûte en bambou, j'ai l'impression de travailler de la pâte à modeler. Voilà. Et en fait, voilà, y a les notes, dans la musique, dans la musique occidentale, les notes sont détachées, elles ont une valeur absolue, elles sont droites. Enfin, on peut mettre un peu de vibrato, évidemment, on peut quand même un peu, il ne faut pas exagérer, on lit les notes les unes aux autres, mais dans la musique indienne, elles sont vraiment liées dans leur hauteur, quoi. Voilà, on peut vraiment faire des glissés, comme un violon peut le faire. Un violon, par exemple, n'a pas de barrette, hein, il n'y a pas de frette sur le manche. Donc on peut glisser, par exemple, sur un violon. Sur une guitare, on ne peut pas le faire. Donc avec un violon, on peut faire de la musique indienne. Et d'ailleurs, le violon est entré dans l'instrumentarium de la musique de l'Inde, de la musique indienne. Et dans la musique de l'Inde du Sud, il y a toujours un violon pour accompagner l'instrument leader. C'est devenu un instrument incontournable, voilà, parce que justement il n'y a pas de ces frettes qui séparent les notes les unes aux autres, les unes des autres, voilà.
Et quand vous parlez de flûte indienne carnatique pardon, ce n'a pas la forme d'une flûte traversière en bambou, quoi.
Alors, ça reste une flûte, c'est-à-dire la définition de la flûte, c'est un tube et un biseau.
Droit, voilà.
Donc, oui. Soit droit, soit de côté. Donc là, il y a une embouchure.
Parce que l'embouchure est très différente de la flûte traversière. Alors, justement, la bouche doit être...
Non, l'embouchure est exactement la même. C'est vraiment une flûte traversière. La flûte de l'Inde, la flûte indienne, c'est une flûte traversière. Mm-hmm. Donc, on souffle exactement pareil. La technique est vraiment très, très proche. Ouais, quelques nuances près, évidemment. Mais, et ensuite, les trous, ben, il n'y a pas de clé. Donc, il y a des trous et on peut glisser sur ces trous. Les doigts peuvent glisser et peuvent légèrement bouger et monter la note et donner des inflexions particulières. Et d'ailleurs, si je peux parler, c'est peut-être un petit peu pointu, mais la flûte, contrairement à ce qu'on imagine, la flûte est un instrument moderne en Inde. On pense que c'est la flûte, elle existe depuis... c'est un des plus vieux instruments qu'on a retrouvés pour les instruments d'après-histoire, avec des flûtes qui ont été construites dans des os. Mais en Inde... La flûte était toujours là pour évoquer, surtout dans les spectacles de danse, un personnage qui s'appelle Krishna. Et Krishna, c'est un personnage c'est une divinité en Inde, mais il garde les vaches. Il y a plein de légendes, c'est quand il est jeune, il garde les vaches, donc il est dans la campagne et il joue de la flûte. Et puis il séduit les filles du village en jouant de la flûte. Voilà. Et il y a plein de légendes, plein d'histoires là-dessus qui sont très connues des Indiens et qui inspirent des tas de chorégraphies. Hein, entre autres, la danse indienne est énormément inspirée des légendes de Krishna. Il n'y a pas que ça, mais voilà, on le retrouve très souvent. Donc, de temps en temps, pour illustrer, pour accompagner les danseuses, on jouait de la flûte. Et les instruments, les musiciens qui jouaient de la musique classique, de la musique savante, pour la danse qui elle-même est savante, c'est-à-dire dans le sens où il faut 5 à 10 ans pour devenir professionnel, jouaient de la flûte pour illustrer Krishna. Mais comme c'était un personnage qui était un paysan, qui venait de la campagne, on jouait de la musique folklorique avec cette flûte. Et donc, on ne jouait pas avec toutes ces inflexions compliquées, ce qu'on appelle les gammakas. Ce sont des ornements très complexes, c'est une science incroyable. Il faut des années et des années pour maîtriser ça. Et on jouait une musique plus populaire. Et c'est vraiment qu'à la fin du 19e siècle, début 20e, que la flûte commence à rentrer à commencer à jouer le répertoire classique de l'Inde. Dans le Nord, ils ont inventé une flûte qu'on appelle la flûte bansuri, qui est une grande flûte bien assez grosse, qui fait des beaux sons graves. Il y a Hari Prasad Chaurasia, qui est la grande star, qui est toujours vivant, qui est la grande star de l'Inde du Nord. Et dans le Sud, il y a un musicien qui s'appelle Mahalingam, qui a créé cette petite flûte à 8 trous. Voilà, on retrouve ces trous qui viennent du hautbois, d'un hautbois qu'on appelle Nageshwaram. On retrouve les mêmes trous comme ça. Il a transposé ça sur la flûte et ça a permis de jouer de la musique savante. Mais ça, c'est début du 20e, Mahalingam. Mahalingam est l'oncle et le maître de Ramani, qui est donc mon maître. Voilà, donc j'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là. C'est extraordinaire, vraiment une chance incroyable. Voilà, donc la flûte, un instrument moderne de l'Inde.
Stéphane Thomas, on va écouter un autre morceau. Ça s'appelle Anbu.
Anbu.
Anbu. Voilà. C'est issu d'un album aussi ?
Alors non, justement, non. C'est pas du tout tiré d'un album. C'est un morceau. Il y a une petite histoire un peu autour de ce morceau, en fait. Donc, je vous ai parlé de Rajkumar. Alors, bon, je sais que c'est difficile de retenir les noms indiens, on n'est pas habitué. Donc, Rajamanikam, donc ce maître de danse donc de Pondichéry, hein, ça c'est donc une autre personne. Donc à un fils qui s'appelle Rajkumar à qui j'ai offert cette flûte et puis bon je revenais donc tous les ans et puis quand Rajkumar a eu 17 ans par là 17-18 ans il a commencé à créer son studio d'enregistrement alors d'abord avec un peu de matériel voilà dans sa chambre et puis maintenant bon il a un vrai studio. Mais là, il était vraiment dans ses débuts, il avait son premier petit ordinateur, un micro, une petite table de mixage, etc. Et puis, il se lançait, et son père lui faisait confiance, et il dit, vas-y, lance-toi. Il a décidé de l'aider. Et donc, j'arrive, son père me raconte ça, et puis il me dit, voilà, tu vas aller... Vous allez dans le studio tous les deux, vous ressortez que quand vous avez enregistré, écrit, inventé, et enregistré un morceau. Alors voilà, on s'est enfermé, on a travaillé, et puis on s'est un peu amusé, et puis ensuite on a trouvé un peu quelques sons vite fait. Rajkumar était à ses tout débuts hein, de faire un petit peu de son sur son ordinateur, mais après on a appelé à la rescousse sa sœur qui chante très très bien, et puis Rajamanikam, on l'entend, vient nous rejoindre à la fin du morceau, et voilà, c'est ce morceau que je vous propose d'écouter parce que voilà, c'est une petite émotion à chaque fois que je l'entends, un souvenir. Thank you.
Stéphane, Thomas, l'heure tourne trop vite avec vous. on va revenir donc là rapidement sur... vous faites aussi vous créez des flûtes, flûtes en bambou aussi.
Oui, à un moment donné, je me suis mis à comprendre un peu comment fabriquer ces flûtes qui paraissent si simples parce qu'il n'y a qu'un bout de bambou et quelques trous. Et puis en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc à un moment donné, je me suis mis à étudier ça. Je suis allé voir un luthier qui fabriquait des flûtes en bambou, des flûtes indiennes. Et voilà, depuis, ça fait maintenant 7 ans à peu près que j'organise des stages l'été pour fabriquer des flûtes indiennes. Voilà, c'est une petite passion et ça me permet de faire un peu autre chose que de la musique aussi.
Donc, il y a les stages de création de flûtes indiennes. Il y a aussi, vous êtes aussi professeur de musique, vous intervenez...
Voilà, j'enseigne à la MJC de Manosque.
Voilà.
J'enseigne la guitare, je fais aussi un petit peu de magie et puis...
Ah oui, c'est ça. Sympa, voilà, ça aussi.
Bon, on va pas trop se disperser pour, avec le temps qui nous reste. Et, et puis aussi du ukulélé. Voilà, j'enseigne le ukulélé aussi. Voilà, c'est très, très, très marrant.
Alors, vous jouez évidemment dans de nombreuses structures, comment on dit, des groupes, des formations. Voilà. Ouais. Dont un duo avec Christian Hildevert,
oui, qui est
contrebassiste.
Contrebassiste. Célèbre contrebassiste de la région, qui fait plein de choses, qui fait de la musique baroque, de la musique contemporaine, mais qui improvise. C'est vraiment une grande improvisatrice. On a pu l'entendre improviser à la contrebasse sur des lectures, par exemple, à la médiathèque, par exemple, voilà, enfin plein de choses. Et puis, surtout, c'est la contrebassiste d'un groupe que beaucoup connaissent dans la région qui s'appelle AXAC,
donc oui.
musique des Balkans.
Du monde, oui, des Balkans.
Voilà. Et là, donc, on a enregistré l'année dernière un disque en duo, donc contrebasse et flûte, donc les deux extrêmes, hein, le plus grave et presque le plus aigu, on va dire, voilà, qui se rencontrent. Et un disque plutôt jazz, mais pas que, de l'improvisation, des couleurs diverses. On s'est beaucoup inspiré d'un musicien qui s'appelait Charlie Haddon, qui est un contrebassiste américain. On s'est beaucoup retrouvé autour de ce musicien. On a fait un disque qui s'appelle Fable et Silence.
Et on va écouter tout de suite Our Spanish Love Song. C'est très mal prononcé.
Un morceau de Charlie Haddon qu'il a enregistré. Il y a une très belle version avec le guitariste Pat Metheny, par exemple.
Voilà. Allez, on l'écoute tout de suite. Thank you. Alors désolé Stéphane Thomas d'abréger, d'écourter le temps d'écoute de cet album. Fable et silence avec Christiane Hildever.
Ouais, on est très fiers de cet album.
Voilà. On le trouve où?
En fait, on le vend pendant les concerts.
D'accord. Ouais. Alors, vous faites aussi partie d'un groupe, qu'est-ce que vous m'avez dit, Dr. Raven?
Ah, Dr. Raven and his Dixie Syncopators. Alors voilà, c'est un titre un peu qui fait référence un peu à des noms de groupes du jazz New Orleans, voilà, du début du siècle, du XXe siècle. Donc on fait de la musique de la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, tous ces vieux standards de jazz. Donc il y a Claire Schneider, justement, au washboard, la planche à laver.
Ah oui, c'est
voilà,
vrai.
Vous savez, on frotte avec des dés, tout ça, un instrument de percussion. Moi, je suis au banjo. Voilà, il y a Laurent, qui est Laurent de Castille, qui est au tuba. Voilà, il y a Nora qui est au saxophone ténor, et puis Paul à la clarinette, voilà. Donc on joue le répertoire de la Nouvelle-Orléans, et on joue souvent plutôt dans la rue, en fin de compte, parce que c'est une musique qui est faite pour sonner dans la rue, donc on la joue autant que possible dehors, voilà.
Et puis bien sûr, vous accompagnez Claire Schneider.
Voilà, Claire qui est ma compagne, qui a écrit des chansons et puis que donc j'ai orchestré ces chansons. Alors on les jouait à tous les deux. Moi je l'accompagnais à la guitare, guitare chant. Et puis à un moment donné, on s'est dit que ce serait chouette de poser ça sur un disque. Alors j'ai orchestré. Alors on a fait un disque avec un guitariste, contrebasse, il y a Christiane qui nous a rejoint, Patrice Gabé qui nous a rejoint au violon, Paul à la clarinette, et puis donc Olivier Païs qui est un joueur de guitare manouche, moi je fais aussi de la guitare, de la flûte, j'espère avoir oublié personne, et on a fait ce disque dont on est très fiers, avec des paroles... Des paroles tellement joyeuses et inspirantes de Claire, et puis ça a donné ce disque. Et puis donc on joue, on donne donc des concerts soit en duo, de temps en temps avec les musiciens, mais surtout donc prochainement, donc le 17 septembre, là vraiment je vous invite
à
Digne,
ah,
les Bains,
oui.
Voilà, au Centre culturel René Char. Donc,
à quelle heure?
20h30.
20h30 au Centre culturel, le 17 septembre.
Le 17 septembre.
Et ça tombe quel jour?
Un samedi.
Un samedi.
Voilà, samedi
17 septembre, 20h30.
20h30, voilà, avec tous les musiciens, et on prépare un beau spectacle. Il y aura de la belle musique, et qui est plutôt jazzy, mais voilà, avec des paroles qui remontent le moral, et on en a bien besoin en ce moment. Ça va faire du bien. On a hâte.
Donc ça, c'est le 17 septembre à Digne. Mais avant, on peut aussi vous écouter à l'église
Notre-Dame de
Romigier à Manosque. Exactement. C'est le 3 septembre.
Oui, c'est ça.
À quelle heure est...
Je crois que c'est vers 18h. Je n'ai pas l'heure exacte, il faudra se renseigner.
Ouais.
Mais c'est à l'occasion d'un vernissage, une exposition de peinture.
D'accord.
Voilà. Et donc d'une peintre qui s'appelle Ange, qui aime peindre des animaux. Voilà, c'est assez marrant, ces peintures. Et donc elle expose dans cette église, et puis à l'occasion de ce vernissage, on va donner donc un concert où on va chanter donc les chansons de Claire en duo, voilà.
Super. Vous chantez aussi alors?
Moi je chante, je scatte aussi, je scatte beaucoup, je pratique ça, j'enseigne aussi le scat depuis quelques années. C'est aussi à cause du Dixie, hein, du jazz New Orleans, du jazz vieux style, et que je pratique, entre autres choses. Quand je chante, j'adore scatter, ça m'amuse beaucoup.
Stéphane Thomas, donc merci, à très très bientôt donc sur la scène de Digne, le Centre culturel René Char, en accompagnant Claire Schneider, donc avec une partie de ses chansons de son premier album. Et puis, il y aura aussi quelques reprises, des belles surprises.
Oui. Ah oui, voilà. Oui, des belles surprises.
Le 17 septembre à 20h30 au Centre culturel René Char. Et puis, ben, pour ceux qui veulent aller jusqu'à Manosque, voir à la fois une belle exposition de peinture à la Notre-Dame de Romigier, donc le 3 septembre, un samedi aussi. Et puis on retrouve, vous avez un site, et Claire aussi.
Voilà, on a des sites, ouais, Claire Schneider Song pour Claire et moi. C'est Steph Thomas, Steph avec PH, STEPH, Thomas.fr. Voilà, vous me trouvez, il y a toutes mes activités, tout ce que je fais. Et voilà.
Merci, à très bientôt.
Ouais, merci.
Au revoir.
Merci.
Que l'amour, c'est un grand mystère. Nul n'a le droit de m'empêcher de faire mes propres choix. Même si on les comprend, pas l'important, c'est d'être en accord avec ce qui vit de mon corps. Pardon mon cœur de t'avoir blessé, d'avoir lancé des flèches empoisonnées. Je ne voulais pas, surtout pas te heurter. Ça m'a fait peur de voir souffrir un être que j'admire. Oui, je t'ai dit bien des choses dures, mais je t'en prie, oublie tes blessures. J'avais pensé bien faire mon devoir. Je ne voulais pas te décevoir, ni te faire souffrir. Sais-tu comme je t'admire? Qui lui